Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et j'essaye d'avoir des personnes qui viennent de domaines vraiment variés. J'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote sur Mirage 2000, un designer de joaillerie, une blogueuse et de très nombreux et talentueux entrepreneurs. J'essaie de publier le Gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur SoundCloud ou sur iTunes pour être bien sûr de ne pas louper un épisode. Enfin, et promis, je passe à mon invité, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale le podcast vous plaît, vous fait passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément, ça m'aide beaucoup et qui sait, je me dis que ça pourra peut-être aussi rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Ning Li, fondateur de Made.com. Il a été un petit peu foufou, il a pris la décision de laisser son mail, donc je vous le donne, si l'épisode vous plaît, vous pourrez lui dire, vous pourrez lui faire un petit bonjour, le remercier à ning@made.com. Et pour tout vous dire, je connais Ning depuis un moment maintenant, parce qu'il se trouve que c'est le meilleur ami de mon beau-frère Aurélien, que je remercie au passage, mais j'avoue que j'avais jamais pris le temps de vraiment me poser avec lui et de lui poser toutes les questions qui me taraudent sur son parcours et sa carrière. C'est désormais chose faite et je suis encore beaucoup, beaucoup plus impressionnée maintenant que je connais l'envers du décor de ses succès. Vous allez voir, son histoire est tout simplement hallucinante. Je vous fais un petit résumé. Ayant quitté la Chine à l'âge de 16 ans, il arrive en Normandie sans parler un mot de français, passe son bac à peine un an plus tard, quitte ensuite la Normandie sans aucune ressource et trouve un job à Paris dans une pâtisserie pour payer ses études. Comme si ça ne suffisait pas, il fonde à sa sortie d'école une première start-up, MyFad, qui connaît une croissance hors norme et qu'il arrive à revendre à Kering, ex-PPR, quelques années plus tard. Après un tour du monde de 9 mois, il rentre en Europe et fonde Made.com, qui fait aujourd'hui autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous aurez compris, un mec comme Ning, ça ne court pas franchement les rues. Ning m'a parlé de son parcours donc, mais a aussi et surtout, je trouve, disséminé une mine de conseils pour tout entrepreneur qui se lance, comme par exemple comment bien s'associer, quelle répartition des rôles opérer, les erreurs les plus fréquentes qu'il voit autour de lui, vision long terme versus court terme, de l'intérêt du réseau aussi, surtout pour quelqu'un comme lui qui n'en a aucun, et toujours, toujours tenter le tout pour le tout, j'ai adoré ça, pour ne jamais rien regretter. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ning Li. Salut Ning.
Salut Pauline.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
C'est un plaisir.
Écoute Ning, je suis très contente de t'avoir parce que je trouve que ton parcours est ultra impressionnant et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette interview, donc je te remercie d'avoir accepté. J'ai plein de questions à te poser, donc je suis pas persuadée qu'on arrive à tout faire en une heure, mais on va essayer de tout faire rentrer. Alors je voulais commencer un peu par le commencement et je me suis dit que, enfin, quelque chose qui est très impressionnant chez toi, c'est tes débuts et notamment ton enfance et comment t'es un peu arrivée en France. J'en ai entendu parler, j'ai donc lu que t'étais née à Foshan en Chine et qu'à 16 ans, en gros, t'avais quitté ton pays pour venir ici étudier en France. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'est arrivé? Est-ce que déjà c'est une décision que t'as prise toi? Est-ce que c'est tes parents? Enfin, comment c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivée en France?
Oui, donc ça, effectivement, je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Donc moi je viens du sud de la Chine et c'est la région de Guangdong Et dans ma province, en fait, traditionnellement, les gens voulaient bien partir. Et ça, ça date des générations. Ce qui explique pourquoi, en fait, beaucoup de restaurants dans le monde qui sont tenus par les Chinois sont souvent tenus par les Cantonais. Donc, c'est une région côtière où les gens partent souvent. Et de la génération de mes parents, c'est assez à la mode d'essayer d'envoyer les enfants à l'étranger. Donc, pour nous, en fait, le choix... s'opérait en priorité les États-Unis, parce que tout le monde voulait partir aux États-Unis, mais c'était assez difficile. J'étais mineur, j'avais 16 ans. Et après, l'Angleterre, pour des raisons de langue, il s'avère que pour les raisons de visa, c'était pas possible ni les États-Unis, ni l'Angleterre.
T'es arrivé un peu par hasard.
Donc après, les deux pays, comme je parlais pas la langue, ça aurait pu être n'importe quel pays. Donc il s'avère qu'on avait la famille qui connaissait le traducteur d'une école.
D'accord.
Et donc on a été mis en relation avec cette école-là. Et donc moi, j'ai été emmené dans sa valise par ce patron d'école dans l'avion en France à l'âge de 16 ans.
D'accord. Et donc, tu es allé dans son école.
Exactement, oui.
Et donc, ensuite, tu as fait toutes tes études supérieures, c'est ça? Enfin, tu as terminé tes études supérieures là-bas?
Oui, donc je suis arrivé à l'âge de première, 16 ans. Donc, en fait, je pensais que j'avais 2 ans pour apprendre le français. Et je ne savais pas que le bac français se passait à la fin de la première. Donc, j'ai un peu paniqué. Je ne parlais pas un seul mot de français à cette époque-là. Donc, c'était un peu difficile.
Ah oui, ça, t'as dû...
Moi, j'avais beaucoup de chance. Un, c'est que j'avais dans ce lycée-là un programme d'intégration. Donc, au début, ils me donnaient vraiment 100% de cours français. Mm-hmm. Et ensuite, progressivement, ils ajoutent des cours. Et deux, c'est que j'avais un dictionnaire franco-chinois avec moi, le seul bouquin que j'avais. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me rappelle à l'époque, c'était Maupassant, le programme de bac.
Ouais.
Donc je lisais le bouquin et bien sûr, toute la page au début, 99% des mots, je ne comprenais pas.
Ouais.
Donc je les surlignais, je les notais dans le dictionnaire et je les apprenais. Je les révisais tous les jours. Donc, à la fin de l'année, j'ai fini mon bouquin. J'ai aussi fini le dictionnaire. Non, bien sûr, 99% des mots, j'ai maintenant oublié, mais ça m'a permis de passer le bac comme ça.
Génial. Mais franchement, quand on y pense, c'est quand même assez fou de se dire que tu as réussi à apprendre le français, à passer le bac en à peine un an, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et du coup, quand tu es arrivé, toi, ton objectif initialement en France, c'était juste de rester pour faire tes études ou comment ça se passait? Pas forcément d'idées en tête?
Oui, à vrai dire, à l'âge de 16 ans, moi, je n'étais pas particulièrement précoce, donc je n'avais pas non plus des ambitions démesurées. Je voulais faire des études, je voulais gagner un bon salaire, je voulais surtout être capable de payer mes parents. Je suis enfant unique, et en Chine, l'enfant unique, c'est un peu la pension ou la sécurité sociale réduite à l'échelle de la famille et des parents. Donc, je suis la pension de mes parents. Donc, forcément, l'objectif numéro un était de trouver un bon diplôme et gagner un peu de bon salaire pour assurer leur pension.
Ça.
C'était ça, en fait, en arrivant.
Et donc, quand tu étais petit, toi, tu ne te posais pas tellement la question de ce que tu voulais faire. Tu n'avais pas d'idée, tu n'avais jamais... Tu avais pensé à l'entrepreneuriat quand tu étais plus jeune ou pas forcément?
Je pense que probablement inconsciemment, je pense que j'ai toujours été, relativement commercial. Entrepreneur, c'est un mot que j'ai appris beaucoup plus tard.
Ouais.
Je me rappelle, par exemple, au lycée, je suis arrivé en France, donc j'ai découvert cette chose qui s'appelle photo de classe.
Ouais.
Et moi, j'aimais beaucoup prendre des photos déjà à l'époque. Donc, j'avais investi... j'ai demandé à mes parents de m'acheter un appareil photo réflexe. Donc, j'étais assez fier. Et la photo de classe, je crois que j'ai appris le prix, c'était 10 euros.
Ouais.
Donc, c'était un énorme prix pour moi.
Bah ouais,
moi, je n'avais pas beaucoup d'argent de poche. Et donc, je me suis dit, bon, déjà, en fait, ça me faisait chier de payer 10 euros. Donc, est-ce que je peux prendre une photo pour moi? Donc, j'ai demandé à la journée de photographe, j'ai demandé au photographe, est-ce que je peux prendre une photo avec mon trépied? Et il a dit oui. Donc, j'ai pris une photo, a priori pour moi. Après, j'ai appris par l'école que, en fait, cette photo prenait 2 mois à arriver. Il dit, mais c'est pas possible.
C'est
tu vois,
pas
ça
vrai.
Prend une photo de classe. Tu payes 10 euros, t'attends 2 mois. C'est n'importe quoi. Donc, moi, j'avais fait circuler une fiche parce que j'ai appris les prix à la Fnac pour le même format, même un peu plus grand.
C'est pas
ça
vrai.
Coûtait 2 euros. Tu dis, bon, pour 5 euros, Est-ce que certains d'entre vous voudraient bien m'acheter la photo ? Donc, moitié prix, arriver beaucoup plus vite et en plus grand. Et sur une classe de 48 personnes, il y a 47 qui m'ont acheté.
Ouais, c'est sûr.
Donc j'ai fait mon
premier... Donc, t'avais quand même un peu ça dans le sang.
Donc, j'ai fait mon premier affaire sur 47 élèves, un bénéfice de plus de... une marge de plus de 50%. Ah, c'était génial. Et j'ai distribué la photo à tout le monde. Sauf qu'après, j'ai eu un peu de remords parce que ça me faisait un peu de la peine de faire de l'argent sur le dos des gens que tu connais autour de toi. Donc, je me rappelle, donc c'est 2-3 euros par personne. Donc, j'ai gagné un peu plus de 200 euros. Donc, j'ai acheté une machine à café, une bouilloire pour la classe.
Ah, sympa.
Donc, normalement, tu allais à la machine à café,
tu payais.
Tu payais 50 centimes.
Ouais.
Donc, je me suis dit, bon, maintenant, on a une machine à café. Donc, on va faire une affaire pour nous. Pour 200 euros, pour 50 euros, tu achètes une machine à café. Et pour 100 euros, tu achètes toutes les recharges de café. On dit, pour la classe, c'est gratuit. Mais pour tous les élèves de classe à côté, on les faisait payer. Donc, avec le petit premier capital, on avait fait un investissement. Après, tout le monde tournait un peu pour faire la maintenance. Donc, j'ai appris qu'en fait, avec un petit capital de départ, tu peux faire une affaire récurrente.
C'est ça.
Pas un one-off.
Je vois ça. Donc, tu étais déjà un peu le CEO de ta classe. Il y avait celui qui allait vendre, il y avait ceux qui faisaient la maintenance. C'est drôle.
Mais en tout cas, pour moi, c'était le premier choix entre businessman. Donc, tu fais un coup, tu fais de l'argent, t'encaisses et tu pars. Ou alors, tu fais une affaire qui dure.
Ouais, qui
et pour moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à tenir mon café que de faire l'argent sur le dos de mes élèves.
Super, hyper intéressant. Mais je vois que tu avais ça dans le sang. Et donc, bah, tu fais tes quelques années là-bas. C'était en Normandie, c'est ça, hein, je crois?
Alors, moi, je suis arrivé en Normandie. Donc, c'est une école privée. Mm-hmm. Donc, ça coûtait très cher. Et j'étais un peu coupable vis-à-vis de mes parents qui ont une vie normale. Donc, pour eux, en fait, c'est des sous qu'ils ont économisés toute leur vie. Donc, très vite, j'ai eu des remords. Et je voulais venir à Paris parce qu'il y avait des lycées publics qui sont gratuits. Mais je ne connaissais personne. Et surtout, je n'avais pas de revenus, etc. Et comme tu te rappelles, je ne parlais pas français.
Ouais.
Je suis venu donc à Paris. Et le seul endroit où je pouvais aller, c'est le quartier chinois, le Chinatown, dans le 13e. Donc, je suis allé frapper à la porte des gens là-bas. Et la première boutique sur qui je tombe, c'était une pâtisserie. Et il s'avère que en fait ces gens-là sont de ma ville à Foshan en Chine.
Ah, trop bien.
Donc très vite on s'est retrouvé et moi je dis écoute je ne parle pas français mais je veux bien travailler. En revanche, j'ai pas de logement, j'ai pas d'argent pour me payer de la nourriture. Est-ce que vous voulez bien me loger et moi je ferai tout pour vous aider. Je pense que c'est plutôt par pitié que par intéressement qu'ils m'ont accueilli. Donc ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont logé, ils m'ont nourri et moi j'ai travaillé dans cette pâtisserie là pendant 3 ans, lycée ensuite prépa, le week-end, le soir et les vacances pour eux. Et le lycée était gratuit, le logement et la nourriture était gratuite, donc j'ai pu venir finalement à Paris faire mes études. Et
habiter à Paris.
Et habiter à Paris et apprendre la pâtisserie en même temps. C'était
donc
génial.
Maintenant, tu cuisines très bien. Ça marche. Et donc, en fait, tu restes quelques années là-bas. Tu es très successful parce que tu arrives à rentrer à HEC. Et en fait, je voulais savoir si, du coup, là, tu commences à parler français à ce moment-là. Tu commences à, j'imagine, quand tu es à HEC, être quand même un peu francisé. Est-ce que... À ce moment-là, est-ce que on parle tous un peu de carrière à ce moment-là, quand on est encore étudiant, est-ce que tu commences vraiment à te poser la question de qu'est-ce que tu veux faire professionnellement ou tu es toujours dans cet état d'esprit de gagner de l'argent, entre guillemets, pour notamment reverser à tes parents? Est-ce que tu commençais à te poser des questions un peu sur ta carrière?
Non, je n'avais pas une réflexion structurelle. Je pense qu'à l'époque, dans une école de commerce, en tout cas, on était assez attirés. Bon, moi, j'étais fasciné par les carrières un peu... qui sont assez en paillettes, banque et les conseils. J'ai fait un stage à la banque que j'adorais et j'ai rencontré mon beau-frère. Et je pense que c'est plutôt par élimination. Donc j'ai passé presque un an dans la banque et je me suis aperçu en fait, même si c'est très formateur, ça correspondait pas à ce que j'ai envie de faire. En fait, je suis quelqu'un qui adore les opportunités, et je suis aussi surtout quelqu'un assez manuel, probablement de la part de ma formation en pâtisserie.
Ouais, c'est drôle.
Et la banque, c'est devant un fichier Excel, des PowerPoint, c'est vraiment pas mon truc.
Donc, tu as fait ça, mais en fait, assez rapidement, tu t'es dit que tu voulais pas rester dans ce secteur. Et du coup, ce que j'ai vu, c'est que juste à la fin d'HEC, tu arrives à travailler comme bras droit de Marc Simoncini.
Oui. Alors,
Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé, déjà comment tu as eu l'opportunité, et puis franchement, être bras droit de Marc Simoncini à l'époque, c'est quand même assez génial. Chez Mythique.
Oui, j'étais stagiaire. Hein, donc,
mais, oui, bien sûr.
Mais pendant les cours d'HEC, j'étais assez intéressé par le web. Donc je me rappelle, j'avais une petite affaire à l'école. En fait, à l'école, tu pouvais programmer des cours de manière assez flexible. Je crois que j'ai réussi à mettre tous mes cours sur un jour ou deux jours. Donc du coup, j'avais 5 jours de libre par semaine. Moi, j'ai appris un peu à coder à l'époque au lycée. Et en fait, c'était le début du web en quelque sorte, en tout cas début du web en France. Et les gens, tout le monde voulait un site internet. Et il y a les marques qui voulaient des sites internet, il y a des petites boutiques qui voulaient des sites internet. Et donc je me suis dit, c'est génial, je sais coder, donc je vais aller essayer de faire un peu d'argent. Donc je suis allé voir les boutiques et les marques. Souvent, en fait, ils ont les propositions de la part des autres, 10 000 euros. C'était le prix. Et donc, moi, ma proposition est assez simple, 5 000, et je ne demande même pas le spec. Donc, parce que je sais que c'est beaucoup d'argent pour faire un beau site. Et après, derrière, en fait, je faisais les specs et j'envoyais le site à mon cousin qui est en Chine.
D'accord.
Lui, il a une armée de gens qui peut empocher pour beaucoup moins cher. Ici. Donc, on faisait en fait, je faisais un peu les sites internet comme ça. Donc, j'ai fait un peu d'argent, mais surtout, j'ai appris un peu le métier du web, et ça m'intéressait d'aller dans le secteur d'internet. Et à l'époque, en fait, Mythique s'introduisait en bourse, c'était un peu la star du web français. Et je voulais vraiment aller chez le meilleur pour apprendre de lui. Donc, franchement, tout simplement, j'ai demandé une introduction. C'est PKM qui m'a gentiment introduit à Marc Simoncini.
PKM qui est Pierre Cuffio-Morizet et qui est un ancien d'HEC entrepreneur, le fondateur de Price Minister, et qui naturellement connaît bien, j'imagine, Marc Simoncini, et qui en plus est très impliqué quand même dans la communauté d'HEC.
Fait.
Petit aparté pour les auditeurs. Et donc, c'est lui qui t'a introduit. Top. Et donc, tu arrives là-bas et qu'est-ce que c'est le premier jour quand tu arrives et que tu es censé être le bras droit de Marc Simoncini? Est-ce que tu te rappelles, tu étais stagiaire, tu expliquais, tu touchais un peu à tout, il y avait un focus quand même particulier dans ce que tu faisais?
Oui, j'étais stagiaire et puis ça date un peu, mais je me rappelle qu'il m'emmenait un peu dans toutes ses réunions, j'ai porté son attaché de caisse, tu vois, j'étais un peu le stagiaire bras droit littéralement.
Ouais.
Mais moi, j'avais deux choses qui étaient intéressantes, je pense, pour lui, vraiment à toute petite échelle. Un, je savais, je parlais chinois. À l'époque, Mythique allait en Asie, donc c'était utile. Et deux, j'avais fait un stage chez Rothschild en banque, donc je savais faire les fichiers Excel.
Ouais.
C'était aussi assez pratique parce que Mythique a levé, je crois, 100 millions en bourse lors de l'introduction en bourse, avec le but d'acheter les boîtes.
D'accord.
Bien sûr, il y avait une stratégie d'acquisition active. Et ça tombait bien que j'étais là, puisque je pouvais faire des crunching de data Excel. Mais c'était une opportunité vraiment en or, parce que pour moi, ça m'a donné vraiment une opportunité incroyable de travailler avec un entrepreneur hors pair. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et deux, ça m'a mis en contact aussi avec d'autres entrepreneurs en face avec qui ils négociaient, qui sont aussi des entrepreneurs. Donc, j'en ai vu beaucoup avec l'espace d'un an, parce que j'ai fait un stage. Après, j'ai continué quelques mois après. Je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a donné la notion d'entrepreneur, et surtout ce qui m'a aussi donné l'envie, je crois que j'ai toujours eu, mais le mot, c'est de dire la
structure,
c'est possible, tu vois, si ces gens-là avec qui je discute peuvent pourquoi pas moi.
Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Le fait de le voir de près, tu te dis que finalement, tu peux peut-être y arriver aussi, quoi. Et j'ai la sensation, du coup, que vous avez une relation, et après, on va parler, de, bien évidemment, de Maid et puis et de ce que tu as fait avec ça, mais une relation quasiment de mentoring, ou en tout cas,
bien sûr, ouais.
Voilà, qu'il a été pour toi quelqu'un d'important dans ta vie. J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le podcast sur comment trouver un mentor, qu'est-ce que c'est qu'un mentor. Est-ce que tu peux me raconter, est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a un jour où tu lui as dit, même peut-être plus tard, est-ce que tu veux être mon mentor? Et est-ce que tu peux me décrire un peu la relation que vous avez eue, c'est-à-dire tu lui passais un coup de fil de temps en temps, comment ça se passait?
Oui, on j'adore Marc Simoncini, on a été très proches. J'ai jamais eu d'approche mentor actif. J'ai jamais demandé à quelqu'un de dire, est-ce que tu veux être mon mentor? Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Un, par le fait qu'il était mon maître de stage. Ouais. Donc, il y a une proximité là-dessus. Et deux, c'est qu'on a toujours gardé contact. Il a vu mon évolution. Et surtout, plus tard, il est devenu mon investisseur dans mon projet de Maid. Donc, il y a eu beaucoup de liens qui se sont tissés entre temps et on a vu l'évolution de chacun en parallèle. Et plus tard, j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont accompagné dans les projets. Je pense que pour moi, j'ai pas eu j'aurais pu, à vrai dire, mais j'ai pas eu je pense que le caractère pour le faire. si je devais le refaire, probablement je le ferais.
Mais c'était important, tu penses, justement, d'avoir cet accompagnement? Parce qu'il y a finalement beaucoup d'entrepreneurs aussi qui restent assez seuls, qui ne s'entourent pas, je trouve, et qui se disent, je vais le faire moi-même, et qui veulent un peu prouver, justement, tu vois, le fait qu'ils sont capables. Et je trouve ça formidable, justement, que toi, c'est toi qui as tout fait tout seul, mais tu as quand même eu des personnes à qui tu pouvais poser des questions, qui pouvaient t'aider. Et je trouve que c'est souvent... Pas très fréquent en France, et c'est un peu dommage.
Oui, en fait, je n'ai pas de famille ici, je n'ai pas de réseau comme beaucoup de mes amis en France ici qui ont grandi avec eux. Donc je suis plus seul que la moyenne des gens que je côtoie, en tout cas à l'époque. Donc c'était une nécessité pour moi d'aller vers les gens, pas forcément dans une optique de trouver un mentor, mais surtout de trouver les gens qui pourraient m'accompagner et m'aider dans le projet. Donc c'était une nécessité plutôt qu'une envie. Et c'était aussi un peu contre mes caractères parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien aller demander de l'aide, mais parfois quand c'est nécessaire, je m'efforce, tu vois.
C'est bien. Et donc après à peine un an donc chez Mythic, tu quittes l'entreprise et tu fondes MyFab, qui est ta première grosse aventure avec un ancien collègue de chez Rothschild. Et alors donc pour expliquer, est-ce que tu peux déjà me dire un petit peu ce que faisait MyFab et comment et pourquoi tu as quitté ton job qui avait l'air bien sous tout...
C'était génial, oui. Ouais. Oui, en fait MyFab c'était un site de vente flash.
Ouais.
À l'époque, grande époque des sites de vente privée, vente flash. Donc, il y a vente privée qui marche bien, qui marchait déjà très bien à ce moment-là. Mais vente privée était à l'époque très focus sur le fashion, les prêt-à-porter avec les marques. Donc, avec mon associé que j'avais connu dans la banque, lui, il avait 8 ans plus que moi, donc il est beaucoup plus âgé. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire une activité de vente flash qui sort un peu du secteur de vente privée, parce qu'on trouvait que le mécanisme de la vente flash qui focalisait l'attention des gens en très peu de temps sur une offre était assez puissant. Après, ce qu'on découle derrière, vente privée avait prouvé qu'il pouvait vendre des vêtements. On s'est dit, mais pourquoi pas toutes les autres choses?
Oui, bien sûr.
Donc, MyFab était fondé sur ce constat-là, vente flash, derrière qu'on essayait de trouver des offres qui sont à la mode ou avec un prix intéressant. Donc, on vendait vraiment de tout, des pulls, cachemire, des montres, des baby-foot, un peu de déco déjà, mais des vélos, des chemises sur mesure, mais vraiment de tout et de rien. Tout ce que les gens recherchaient, on les vendait. Et donc, en fait, souvent, c'est les lots de stock qu'on source par-ci, par-là. L'avantage, c'est que tu peux démarrer une offre assez vite. T'as pas besoin de les construire. L'inconvénient, c'est que, en fait, tu pouvais les vendre, mais comme ton voisin pourrait le vendre.
Oui, bien sûr.
Et souvent, quand les choses ne marchent pas, Voilà, on l'arrête. Quand ça marche, on essaie de le vendre, mais tu retrouves avec tous les concurrents, Carrefour, Casino, quand ils arrivent, souvent c'est game over.
Ouais.
Tu passes à la chose suivante. T'es dans une démarche constante de trouver les bonnes affaires,
ouais,
l'une après l'autre. Donc c'était un peu difficile à capitaliser et à la fois sur la marge, et à la fois sur une pérennité de volume d'affaires à ce moment-là.
Mais bon, ceci dit, vous avez quand même eu à l'époque, parce que vous avez peut-être été les premiers à le faire, un succès quand même assez dingue, parce que ça a vraiment explosé, et je crois que vous êtes passé à quasiment, je sais pas, 150 salariés, quelque chose comme ça, en 2 ans. Si tu avais des enseignements, justement, de cette expérience, qu'est-ce que ça serait? Parce que pour une première entreprise, où tu avais quoi, quelque chose comme 25 ans, 26 ans peut-être, grandir aussi vite, ça a dû être à la fois génial et en même temps, j'imagine que c'était flippant.
Oui.
Quels enseignements est-ce que tu as tiré de cette première expérience?
Beaucoup de choses. C'était ma première expérience e-commerce, donc on n'avait pas forcément de recul. Mais après, je pense qu'on avait une bonne association avec mon ancien associé. Lui, il était banquier, vraiment de professionnel. Donc, il savait lever l'argent.
D'accord.
Et il fallait lever beaucoup d'argent pour cette aventure. Et je n'étais pas capable de le faire seul. Et deux, c'est qu'il a, il a fallu dépenser de l'argent pour acheter des médias de manière assez disciplinée. Je pense que j'ai vu chez Mythique, j'ai appris, j'ai essayé de le refaire. Et ça a été très utile. Une grande partie des raisons pour laquelle MyFab a pu se démarquer assez vite, parce que, comme tu dis, en l'espace de 2 ans, on a créé plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires en 2 ans.
Ouais, c'est incroyable.
Et 180 salariés, même au bout de 1 an et demi, 2 ans, donc ça a été assez fulgurant. La chose qu'on n'a pas su bien faire, c'est on n'a pas su forcément construire une équipe autour de nous et une infrastructure pour livrer l'expérience client. Donc, on avait des dizaines de millions de chiffres d'affaires, on avait plein de clients à livrer, mais on faisait tout sur Excel. Donc, il n'y avait pas de RP,
il n'y avait pas de structure, de
système. Donc, les retards étaient fréquents et les problèmes de qualité étaient assez difficiles à surmonter. Et surtout, je pense que on avait un problème de marge au début qu'on n'a pas su profiter du volume pour corriger.
La rentabilité était pas très bonne.
À un moment, on a été trop omnibulé par la croissance. Et parfois, croissance pour la croissance, plutôt que croissance pour... dans le but de, tu vois, d'améliorer les business models, croissance pour établir une marque,
ouais,
on n'a pas eu cet objectif un peu plus long terme. Donc, ça a été assez court-termiste comme approche.
Je comprends. Et bon, alors, ceci dit court-termiste, mais qui s'est bien fini, en tout cas pour toi, parce que tu as réussi à vendre tes parts à Kering. Si ça ne te dérange pas, après, tu me dis si tu n'as pas envie d'en parler. Mais je trouve que le process de vente, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en France. Et donc, ça m'intéresserait d'en parler un tout petit peu. Je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui envisagent ça et qui savent pas du tout comment s'y prendre. Et toi, bon, alors c'est vrai que tu avais à la fois ton expérience chez Rothschild, en plus on avait ton associé finalement qui était banquier, donc j'imagine que tu avais un petit peu plus d'expérience. Mais est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé? Vous aviez cette croissance fulgurante et est-ce que c'est Kering qui vous a démarché? Est-ce que vous avez fait un process?
Un peu différent. Pour moi, c'est pas vraiment un process de vente. Déjà, c'est une session partielle.
D'accord.
Puisque mon associé est resté et moi et mes investisseurs, nous sommes partis. Donc, c'est un peu différent qu'un process de vente classique. Et je pense qu'aussi, dans ce cas de figure, en fait, MyFab faisait beaucoup de bruit, en tout cas. On faisait beaucoup de chiffres d'affaires. Beaucoup de marge, mais beaucoup de chiffres. Donc, ça faisait beaucoup de bruit. Et surtout, à l'époque, cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de choses dans l'univers du web français, dans l'e-commerce. Donc, c'était... On attirait beaucoup d'attention des investisseurs et aussi de la part des groupes industriels. Et moi, j'étais assez jeune à cette époque-là. Et quand mon ancien associé et moi avait fondé MyFab, on était 50-50 et on avait une répartition de rôles assez claire. J'étais opérationnel, c'est moi qui faisais tourner un peu l'opérationnel. et lui, il s'occupait vraiment de s'occuper des investisseurs. c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de choix de VC. Donc, on s'est retrouvé à lever beaucoup d'argent auprès des investisseurs privés. Mm-hmm. Je pense qu'on a fait probablement en un an plus de centaines de rendez-vous et on a eu 15 qui ont investi. Ouais. Donc, un taux de conversion de 15%, comme on dit. Et donc, du coup, pour les quinzaines d'investisseurs, c'était presque un temps plein de s'occuper des relations, de faire du reporting. Ouais. On n'avait pas de process. Forcément, mon associé passait beaucoup de temps à faire ça. Mais avec la... Donc ça, c'était le début. Après, avec la montée de volume de MyFab, on a eu, je pense, beaucoup plus de boulot à faire. Donc du coup, tout le monde s'est mis à un peu tout faire. Ouais. Et on n'a jamais eu une discussion assez claire entre moi et mon associé. Qui fait quoi, donc, tu vois, c'était pas clair. Et quand tout partait en... Tu vois, il y avait le feu à la maison, tout le monde s'est muté à essayer de trouver une solution. Donc, quand tout partait un peu à la hausse, au contraire, on a trouvé que la relation de travail n'était pas idéale, puisqu'il n'y avait pas vraiment de patron, on était 50-50. Donc, il y avait une levée de fonds qui se faisait. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus simple pour moi et mes investisseurs de sortir et le laisser gérer, sachant qu'à cette époque-là, c'est beaucoup d'argent.
Ouais, c'est clair.
Et donc, c'était aussi une affaire qui est... Donc, c'était une chance ou une malchance d'avoir vendu assez tôt, finalement, dans l'aventure. Il s'avère juste qu'après, ce qui a fait le succès de MyFab, c'est justement cette complémentarité. Mm-hmm. Donc, c'était la dynamique d'équipe n'a pas forcément bien fonctionné par la suite, mais ça s'est fait comme ça. Tu vois, il n'y avait pas de process.
D'accord, c'était pas prévu, entre guillemets.
C'était assez naturel.
Ça marche. Très bien. Bah, alors, du coup, justement, tu quittes MyFab. Mm-hmm. Du coup, tu décides à ce moment-là, et ça, j'aimerais mieux en parler parce que je trouve ça absolument incroyable, c'est que tu décides de partir, faire un sabbatique, je crois pendant 6 mois ou un an quasiment.
J'ai fait presque un an de voyage.
Et alors, est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie?
Oui.
Pourquoi t'es parti et qu'est-ce que t'as fait pendant cette année?
Oui, en fait, moi, j'ai eu longtemps des frustrations parce que entre l'âge de 16 ans ou 15 ans, jusqu'à 25 ans, je suis arrivé en France. J'ai travaillé les week-ends, les soirs et les vacances pour ma famille de pâtisserie.
Ouais.
Et après, par la suite, j'ai pas eu forcément beaucoup d'argent pour partir en vacances. Et pendant tout ce temps-là, tous mes amis, tu vois, souvent, j'ai fait lycée dans les bons quartiers, tous mes amis partaient en vacances au Mexique, machin. Ouais. Et en fait, ça m'a toujours un peu frustré. Et je me suis dit, bon, maintenant, finalement, j'ai pas de boulot, j'ai un peu d'argent, c'est le moment de partir. J'ai toujours voulu voyager. Mm. Donc, j'ai pris mon sac à dos et j'avais pas d'attache en particulier. Donc, je suis parti. J'ai fait un an de voyage. J'étais assez intéressé par la plongée. Donc, c'était un peu le thème de plongée sous-marin. Donc, je suis parti pour faire un diplôme. Donc, j'ai choisi les pays un peu en fonction, donc l'Asie du Sud-Est. Et ensuite, je voulais faire un peu plus de pays, mais je me suis arrêté à Cuba. Où ça devait être un arrêt pour mon voyage de plongée. Finalement, ça s'est terminé en 6 mois.
T'as resté 6 mois à Cuba?
Oui, et comme tu peux pas rester 6 mois à Cuba sans raison, je me suis inscrit à la fac de la Havane.
C'est pas vrai.
pour apprendre la langue et la civilisation cubaine.
Ouais.
Et c'était génial.
Donc maintenant, tu parles espagnol.
Je parlais espagnol, en tout cas.
Ça marche. Et qu'est-ce qui fait? Donc, bon, au bout d'un moment, tu t'apprends à parler espagnol et t'en as peut-être un peu marre de faire de la plongée, je sais pas, mais qu'est-ce qui fait, t'es rentré, c'est ça, au bout d'un moment, au bout de 6 mois en France, c'est ça? Comment ça s'est passé?
Alors moi, je suis rentré pour moi j'étais juste rentré pour un mariage d'un ami.
D'accord.
Pendant ce voyage, en fait, j'avais le billet de retour pour retourner à Jamaïque par la suite.
Ah ouais.
Donc j'avais prévu vraiment de
continuer. Tu voulais continuer.
Sauf que pour mon retour en France, je me suis arrêté à Londres et là j'ai rencontré un de mes associés actuels, un investisseur qui s'appelle Brent Oberman, fondateur de Last Minute, qui est aussi devenu mon mentor par la suite. Mm-hmm. Donc lui il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, je sais pas, je voyage, je profite de la vie, je cherche aussi une idée.
D'accord.
Il dit, mais franchement, arrête tes conneries. J'ai des bureaux pour toi si tu veux commencer un nouveau projet. Et je vais t'aider aussi à recruter les gens si ça t'intéresse. Donc, en fait, lui et moi, on se connaissait déjà de l'époque de MyFab.
D'accord.
On s'est déjà parlé. Donc, il me connaissait. Et pour moi, en fait, qui n'était pas pressé de commencer tout de suite quelque chose, c'était une opportunité incroyable de pouvoir m'associer avec quelqu'un qui a un réseau, aussi une expérience prouvée et surtout un nom en Angleterre, parce que c'est lui, il est basé à Londres.
Ouais.
Je serais jamais allé à Londres sans et pour commencer une boîte en plus, comme tu le sais, le réseau est assez important tu commences un projet. Donc pour moi, c'était quelque chose d'imprévu. Donc j'ai une opportunité que j'ai saisie. Donc j'ai arrêté mon voyage, j'ai posé mon sac à dos à Londres et j'ai commencé à travailler sur mon projet qui est devenu Mate.com.
C'est clair. Mmh. Et alors justement, je connais un peu l'idée de Made et comment t'es venu. Mais est-ce que tu peux raconter pour les auditeurs un peu comment est venue cette idée de vendre des meubles sur Internet? Parce qu'en fait, quand on y pense, à l'époque, c'était très novateur. Enfin, c'était en 2010, hein, c'est ça.
C'est ça.
Il y avait quelques boîtes qui le faisaient, mais de la manière dont vous l'avez fait, vous, c'était quand même vraiment très, très novateur.
Oui. Alors moi, j'ai appris le e-commerce avec ma première expérience de MyFab. Après, j'ai aussi une autre chance, c'est que je viens d'une ville qui s'appelle Foshan, qui est dans le sud de la Chine. Il se trouve que c'était juste la ville de production de meubles en Chine. Mm. C'est la ville la plus importante en Chine, donc la ville la plus importante dans le monde pour la production de meubles. Et j'ai vu certains de mes amis qui ont grandi avec moi, qui sont par la suite partis aider leurs parents dans les usines. J'avais ce réseau-là. Et quand je devais, en fait, un jour... j'ai regardé un prix d'un canapé et qui m'intéressait. J'ai montré en fait le canapé à mon ami et qui est encore à Foshan. Donc je dis par curiosité, ce canapé en cuir qui coûtait 3 000 €, combien ça coûtait pour produire à peu près?
Ouais.
Il se trouvait que c'est lui qui produisait ce canapé. Alors, une coïncidence incroyable. C'est un canapé en cuir Chesterfield, il dit franchement. Je le vends 300 $ et je fais déjà une marge dessus parce que forcément c'est une usine.
Ouais.
Je dis mais c'est pas possible un prix, tu vois, une marge de 10 ou 15 fois.
Ouais, c'est énorme.
Et bien sûr, est-ce que je peux acheter auprès de toi? Mais surtout, qu'est-ce qui ferait que les autres amis en Europe, pourrait aussi profiter de cette opportunité. Lui dit, écoute, je veux bien te faire un service, je te vends à la pièce, mais bon, on est quand même une usine, donc on fonctionne au volume.
Ouais.
À la pièce, c'est pas vraiment notre modèle. Et je me suis dit, bon, très bien, Internet, c'est le bon moyen pour le faire, parce que tu peux agréger le volume, un peu comme, tu vois, au mécanisme de MyFab, mais les passer, tu vois, de temps en temps à l'usine pour qu'ils produisent en batch. Donc, c'était un peu venu comme ça, cette idée, en tout cas, l'observation de l'opportunité. Après, je pense que j'ai appliqué une leçon importante que j'ai apprise de MyFab, c'est qu'on avait beaucoup... grossit le volume sans forcément développer une marque derrière et de la marge. Et pour moi, la croissance pour la croissance, comme j'ai appris, ce n'était pas vraiment une solution. Donc, je me suis dit comment on peut faire pour capitaliser un peu sur le long terme. Pour tout ce qui est en tout cas lumière du meuble, ce que recherchaient les gens, c'est la qualité avant tout. Et la qualité s'exprime en qualité de matière, mais aussi le design.
Ouais, bien sûr.
Donc on s'est dit, bon, le design, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, dans lequel on peut investir, parce que y a beaucoup, beaucoup à faire, et pas forcément à des coûts importants. Comme tu le sais bien, c'est les designers, il y a beaucoup, beaucoup de designers qui sont diplômés, qui cherchent du boulot, qui nous portent d'opportunités. Et nous, on leur offrait une plateforme qui leur permettait de se faire connaître, d'exprimer, d'expérimenter. On a un modèle assez simple qui est de dire, on travaille à la commission avec les designers. Donc, si ça ne marche pas, ça ne marche pas.
Ouais.
Si ça marche, tout le monde fait... tout le monde est gagnant.
Ouais.
Donc, c'est un modèle qui nous a permis de tester beaucoup plus de design que nos concurrents.
Donc
en un an, en moyenne, maintenant, on développe à peu près 3 à 4 000 modèles. Alors que ça, c'est des volumes assez importants. probablement encore un peu plus que qu'une boîte comme IKEA. Mm. Donc c'est absolument phénoménal. C'est le modèle de d'agilité qui nous permettait de faire ça.
Je comprends. Et du coup, en fait, tout de suite, vous avez décidé donc d'attaquer, entre guillemets, le marché anglais, parce que grâce à Brent, t'avais un réseau sur place, via une fabrication qui était chinoise et avec quand même cet objectif de rendre le design accessible. Mmh. Ça, c'est quelque chose, tout de suite, entre guillemets, dans ta plateforme de marque, tu t'es dit, c'est un peu la proposition de valeur de Made, où au début, c'était un petit peu plus flou et c'était, on veut vendre des... Ma question, c'est, est-ce que ça s'est construit quand même progressivement ou est-ce que tu avais quand même une vision claire assez tôt, finalement, dans l'aventure de Made?
La vision n'a pas changé, mais je dirais que ça s'est articulé de mieux en mieux avec le temps. Au début, la proposition, c'est qualité pas chère. Mmh. Bon, c'est
pas mal.
C'est ce que fait tout le monde. Bon, après, c'est plus facile à dire que le faire. Parce que la qualité, il faut la substance, il faut la donner la substance. Mmh. On a aussi un problème, c'est que on savait qu'on voulait la qualité s'exprimer en matière. Donc, on investissait beaucoup dans la matière, qualité de matériaux, la qualité de finition.
Ouais.
Et on savait aussi qu'on voulait investir dans le design, mais on n'avait pas de volume. C'est assez difficile. En fait, quand tu t'adresses à une usine, tu peux acheter des produits qui sont sur catalogue,
ouais,
souvent moins beaux,
ouais,
mais qui sont prêts à emploi. Donc, ouais, tu peux, mettons, un conteneur, voilà, c'est parti. Mais si tu veux investir sur un design à toi,
ouais, c'est plus compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué parce que ça prend du temps et ça immobilise les ressources de développement d'une usine qui est limitée. Et à vrai dire, pour justifier cet investissement, il faut pas un conteneur, mais plutôt 10. Mmh. Tu vois, au début, c'était juste hors de nos portées.
Et donc, vous avez commencé plutôt par des designs un peu où vous faisiez attention à la finition, mais qui étaient déjà préexistants.
Non. Alors, on a fait dès le début du design à nous.
D'accord.
Donc ça, c'était un pari qu'on avait fait, qu'on s'est dit, bon, on n'a pas de volume, mais on va prétendre qu'on a du volume. Donc il faut vendre un peu le rêve aux fournisseurs. Après, il faut aussi délivrer. Et deux, c'est qu'il faut monter très vite en parallèle le volume de vente. Donc ça, le capital risque est bien utile parce que c'est les gens qui peuvent mettre un billet sur la table pour acquérir du volume. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi créer un buzz parce que même en achetant de la publicité, tout le monde achète à la publicité.
Oui, bien sûr,
qu'est-ce
ça permet de te différencier.
De différencier. Donc, nous, on a eu une idée à l'époque. On s'est dit, bon, pour se différencier, il faut être vu et il faut faire du buzz. Notre proposition, finalement, c'est de vendre un produit qui est sans tout ce qui est du marketing et du discours de marque traditionnelle autour, vraiment que le produit nu chez toi. Donc, pour illustrer le produit nu, on a décidé de mettre les femmes nues.
Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de cette campagne.
Donc, au début, c'est pas une campagne, c'était même un positionnement.
Ouais,
au début de Made, tous les meubles avaient des femmes nues. Bon, c'était une grosse connerie maintenant quand tu repenses, mais parce qu'on vendait principalement à des femmes, donc pour beaucoup, ça les
valorisait
choquait.
Pas beaucoup, je pense.
Mais en tout cas, ça faisait parler. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas. Il y a beaucoup de gens qui aimaient. Donc,
oui, mais
souvent,
bon,
c'est biaisé. Hein,
au début, il faut déjà se faire remarquer, je dis souvent. Et puis ensuite, après, tu peux affiner. C'est vrai que c'est tellement difficile déjà d'émerger. Au moins, là, ça, c'est une idée qui a eu le mérite de faire que vous avez été vu, quoi, j'imagine.
Oui. Alors, après, c'est pas une campagne pour une campagne. C'est aussi, ça a communiqué un sens derrière.
Bien sûr.
En tout cas, le débat nous a permis un peu d'être sortis du lot.
Ouais.
Parce que tu aimes ou tu n'aimes pas, à vrai dire, dans 5 ans, tu auras oublié. Tu auras retenu le nom et tu ne seras pas forcément souvenu de ce que c'était. Tu vois.
Alors justement, le nom, très belle transition, Ning, parce que je voulais t'en parler. Il y a un nom, moi j'en parlais encore hier, je disais à des amis que je t'interviewais, ils m'ont dit mais Made, c'est tellement bien comme nom, comment ils ont eu ce nom? C'est incroyable parce qu'en fait, on le sait, très difficile d'avoir des noms qui sont signifiants et qui sont et qu'on peut avoir à la fois en .com, enfin qu'on peut avoir sur tous les réseaux. Et vous, je sais qu'il y a une petite histoire derrière, est-ce que tu peux m'en parler? Comment déjà le nom vous est venu et puis et comment t'as réussi à l'avoir, quoi, parce que c'est quand même un nom qui, je pense, qui devait être assez recherché.
Oui. Écoute, il n'y a pas vraiment de miracle. Les noms sont, c'est comme l'immobilier, ça se fait rare. Et plus tu avances dans le temps, moins il y a de noms.
Ouais.
Donc maintenant, tous les noms qui sont bien sont déjà enregistrés par les, souvent les investisseurs dans le nom de domaine. Donc il faut les payer. Pour le nom de Made, on a passé probablement, j'ai passé probablement 4-5 mois à chercher. J'ai une liste de 100 noms, donc je négociais en parallèle. Le nom de Made, qui est, en fait, ça a été acheté par un Coréen, par un groupe coréen en 98, parce que Made en coréen, apparemment, ça veut dire quelque chose.
D'accord.
Aussi. il avait acheté pour 25 000 $ en 98. Il n'en a pas fait forcément quelque chose de grand.
Ouais.
Il avait toujours gardé le nom. Donc, en 2010, je suis arrivé. Je lui ai offert, on a négocié un prix qui était beaucoup plus cher.
Ouais.
Et moi, j'avais un capital du départ qui venait de ma vente de MyFab. Donc, je pouvais m'offrir ce nom-là. C'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est
juste... Mais t'as pas eu peur, justement, de... Parce que finalement, au début, alors, c'était peut-être moins le cas à l'époque, le côté lean startup et tout, mais je sais que tu voulais créer une marque, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, je vais commencer par tester, ça va pas me coûter cher. Toi, t'as investi tout de suite sur le nom de la marque.
Oui. Moi, j'ai sorti mon chéquier, j'ai payé le nom. Écoute, j'ai jamais lu le lean startup, je sais pas ce que c'est. Ce que je sais, en revanche, c'est que pour émerger, il faut vraiment maximiser toutes les chances et vraiment tenter le tout pour le tout. Et le nom en fait partie quand tu crées une marque, tu vois. C'est quand même important. Pour percer et deux, pour que les gens se souviennent de toi. Et j'avais cette chance d'avoir de l'argent pour investir dans un nom qui me différenciait des autres. Donc, il fallait juste en profiter. Après, le côté tester avec un produit minimaliste pour voir si ça sort. J'ai jamais compris, en fait, comment ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Par exemple, dans les domaines un peu plus software, tech. Tu peux comprendre. Mais pour une marque, c'est pas vraiment de ma culture.
C'est sûr que c'est plus compliqué. Et du coup, si on revient un peu sur la structure aussi, parce que tu m'as parlé dans le cadre de MyFab un peu des erreurs que vous aviez commises de ne pas vous organiser dès le départ très clairement entre toi et ton associé. Là, en fait, est-ce que tu peux me parler comment t'as organisé justement la Made et justement quel a été un peu ton processus de pensée à ce moment-là?
Oui, c'est très simple. Donc, Brian Overman et moi, on s'est retrouvés. Le rôle était assez simple. Lui, il est investisseur. Il mettait de l'argent et son réseau. Moi, j'étais la seule personne à le faire.
Ouais.
Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Et derrière, une fois on a levé des fonds et on a commencé à faire le projet, il y avait deux personnes de plus qui se sont rejoints, mais qui ont pour le coup des rôles beaucoup plus clairs. Chloé et Julien. Chloé était architecte, donc elle travaillait quelques jours par semaine pour nous.
D'accord.
Et son rôle était vraiment s'occuper de la marque et des collections.
D'accord.
Et Julien, qui était un camarade de classe, il avait une première expérience dans le meuble avant. Donc lui, lorsqu'il est venu dans le projet, son rôle était vraiment de faire toute la partie opérationnelle. Donc en fait, de ce point de vue-là, pour ce projet, c'est beaucoup plus... les rôles se sont beaucoup plus répartis naturellement. Il n'y avait pas d'ambiguïté.
Même en fait, parce que moi, j'ai beaucoup justement de personnes qui me demandent comment est-ce qu'on trouve ses associés, etc. Souvent, les gens, en fait, trouvent presque d'abord les associés, ensuite créent le projet. Toi, j'ai l'impression que comme vous aviez déjà le projet...
Oui.
En fait, tu as trouvé les personnes pour remplir les rôles manquants, quoi, d'une certaine manière.
Oui, alors il y a plusieurs façons de le faire. Pour mon premier projet, MyFab, avec mon associé, on s'est d'abord retrouvés. On a décidé de faire un projet.
Ouais.
Et après, on a trouvé un projet.
Ouais.
Donc, c'était un peu l'inverse. Et pour mon deuxième projet, c'est sûr que, j'avais déjà un peu plus de ressources de mon côté. Et puis, j'avais une idée, j'étais très pressé pour le faire. Et pendant mon année sabbatique, l'objectif n'était pas forcément de... Priorité, c'est pas forcément de rencontrer un associé. Donc, quand je me suis posé pour commencer, il fallait surtout démarrer le projet.
Ouais,
et ensuite, trouver les gens autour. Et selon la contribution et la seniorité, s'ils ont une part dans l'entreprise où ils sont des salariés, les premiers salariés du projet. C'était assez naturel de ce point de vue-là. Ouais.
Je comprends. Et alors, un peu comme pour MyFab, tu n'as que des succès, c'est d'ailleurs pour ça que tu es sur le podcast.
Non, mais bon,
je sais que c'est dit, c'est pas du tout pour...
C'est
en plus,
modeste, relatif.
Non, mais quand même, c'est assez incroyable parce que franchement, des marques B2C qui ont grossi aussi vite. Tu as parlé souvent de rapidité, de vitesse. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur et j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Mais donc voilà, vous avez fait évidemment plein de levées de fonds, des levées importantes, 60 millions en 2015, etc. Enfin, on pourra parler des chiffres si tu veux, mais moi j'ai noté un chiffre qui est quand même assez fou. C'est donc 178 millions d'euros en 2017 pour Made.
Oui.
Donc là, pour le coup, une vraie boîte maintenant importante dans le secteur du meuble, donc en plus partout en Europe. Si tu prends un peu de recul, quels ont été pour toi les grands facteurs clés de succès pour Made, en tout cas où toi tu l'as emmené donc pendant les 7 années où tu étais CEO, de 0 à 178 millions. J'imagine que c'est pas facile parce qu'il y a plein de choses et je sais qu'il y a pas de recette magique.
Non.
Mais si tu avais quelques éléments où tu te dis là quand même, ça a été game changing.
Alors, avec du recul, c'est probablement plus facile à dire, mais à l'époque, c'était pas forcément évident. Je pense qu'il y a plusieurs. La première, probablement, c'est une question de perspective. Je pense qu'avec, surtout quand je compare les deux aventures de MyFab, qui est assez court-termiste, et Made, que j'ai créé pour durer et pour long terme. Je pense que beaucoup, et moi en premier, quand on commençait un projet, on a qu'une envie, c'est de faire grossir la boîte, potentiellement la vendre, tu vois, avec l'idée derrière la tête de se faire un paquet d'argent. Et souvent, quand on part avec cette mentalité dans la tête, et quand tu concurrences les gens en face de toi qui ont la patience, qui ont l'envie, mais aussi la patience, tu pars avec un handicap énorme.
Ouais.
Parce que souvent, au quotidien, en fait, quand tu fais des investissements et de décisions, tous les jours, pour le long terme ou pour le court terme, pendant une semaine, c'est pas grand chose, mais quand tu cumules tout ça pendant 5-10 ans, ça devient énorme. Et souvent, je trouve que pour Made, on a toujours, à chaque fois, quand on a eu un choix pour le long terme, pour le court terme, on a fait pour le long terme. Et ça, pour gérer une marque, il y en a plein, comme tu sais.
Ouais.
Est-ce que tu fais une promotion
ouais.
pour monter la vente de ce mois-ci ou tu ne fais pas pour pérenniser un peu la marque ou tu investis un peu plus la qualité de cette chaise où tu t'entretiens un peu pour gagner un peu plus de marge. Nous, on a toujours privilégié le long terme et je pense que ça nous a donné un avantage significatif, surtout par rapport à d'autres startups qui ont commencé dans le meuble qui maintenant ont disparu.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est la première. Et deux, je pense que c'est aussi... Quand je regarde l'évolution de Made entre zéro et tu vois maintenant cette année plus de 200 millions, on a transformé en fait l'équipe plusieurs fois.
D'accord.
Quand on a commencé, forcément tu fais tout, il n'y a pas de hiérarchie, et tout le monde faisait tout et c'est très bien comme ça. Et je pense que arriver vers un stade où on est probablement 50 personnes, c'est un peu le moment crucial où si tu te structures pas un minimum, tu auras du mal à dépasser l'étape suivante. Et c'était un peu mon cas parce que je suis, comme je t'ai dit, je suis assez manuel et surtout assez opérationnel. J'aime bien tout faire moi-même.
<D'accord>.
c'est un avantage pour le début.
Ouais, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Hein.
Et c'est pas forcément un avantage par la suite. Donc, je me rappelle quand on avait une cinquantaine de personnes, on a décidé de commencer notre premier pas à l'international. Bon, on était anglais.
Ouais.
Donc, l'international veut dire aller au-delà de l'Angleterre. On avait choisi la France, naturellement.
Je me rappelle.
Et c'était une époque assez difficile puisque j'avais déjà, je me rappelle, avant de commencer la France, 15 personnes qui reportaient à moi.
Énorme.
Et avec la France, probablement 16-17. Donc, c'était juste pas tenable. Donc, j'ai passé en fait ma journée à répondre aux questions des gens et je le faisais pas forcément bien. Donc il a fallu structurer et on a eu la chance à ce moment-là de trouver un bon COO qui s'appelle Philippe qui nous a rejoint donc au bout de 3-4 ans d'exercice qui est toujours resté d'ailleurs. Donc c'est lui qui nous a beaucoup aidé à transformer la la structure d'un maid, ouais. Surtout poser les bonnes pierres, les bonnes pierres de management et les process de reporting qui ont été cruciales par la suite. Et je pense que la combinaison d'un fondateur qui connaît bien son business, qui a la passion du produit,
ouais.
Associé à un manager qui est charismatique, organisé et un beau financier, est vraiment crucial pour la transformation d'une start-up. Et souvent, c'est des rôles difficiles à recruter. Et ça ne marche pas toujours, la dynamique entre les deux. Donc, on a eu la chance d'avoir trouvé les bonnes personnes au bon moment. Et les opérationnels qui étaient passionnés, qui étaient très bons dans ce qu'ils font, et les managers au bon moment, pas trop tôt et pas trop tard probablement, qui accompagnaient la croissance de l'entreprise.
Hyper intéressant. Mais c'est sûr qu'en fait, on parle souvent justement des problématiques sur le podcast de recrutement et de comment faire scaler, comment faire grandir. Et je trouve que ce que tu dis, c'est la première fois qu'on me le dit. À la fois le dynamisme et la vision, on va dire, du fondateur. Et c'est vrai que souvent, on dit le fondateur, mine de rien, il porte le projet dans ses tripes, il aime le produit. Mais en même temps, à côté, un accompagnement presque plus professionnel, en fait, quoi, d'un manager qui est là pour structurer. C'est vrai que ça paraît... avec du recul, ça paraît évident, mais en fait, c'est pas si facile.
Non, mais moi, je pense que c'est vital parce que je trouve que, comme je t'ai dit, une des différences principales pour nous, c'est qu'on a toujours su regarder à long terme. Et quand tu es fondateur et manager du quotidien, c'est difficile de regarder à long terme. Parfois, pour regarder à long terme, il faut s'extraire du quotidien. Et en fait, l'arrivée de quelqu'un comme Philippe dans la boîte, justement, m'a permis de m'extraire un peu de quotidien, mais au moins donner un peu de souffle et prendre un peu de souffle et regarder le long terme. Ça a été... C'est super important, en fait, pour la boîte, d'avoir les gens qui regardent des horizons et des perspectives différentes.
C'est clair. Si jamais on parle un petit peu de difficultés ou d'échecs ou d'erreurs, est-ce qu'il y en a? Et est-ce que tu peux me parler de celles qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus appris, ou vraiment t'en as tiré des enseignements?
Alors, j'ai fait plein de conneries. Alors, par où commencer? Alors, probablement, les plus récentes pour l'aventure de Maid. Moi, je pense qu'il y a... donc Maid, c'est vraiment mon premier vrai projet que j'ai porté longtemps et que j'ai su grandir. Comme je t'ai dit au début, j'ai recruté des gens qui sont surtout opérationnels, qui sont des experts du métier et qui sont souvent du milieu de start-up. Et à un moment, la croissance est arrivée, c'est arrivé très vite. Et j'avais une fascination pour les managers. Je savais que je devais recruter les managers, mais je ne savais pas par où commencer. Et je me suis dit, bon, on est une marque, donc on va aller recruter les talents qui savent manager les marques. Donc je suis allé, surtout quand on commençait à recruter les premiers managers, je suis allé chez Procter & Gamble.
D'accord.
Une boîte très, très, très respectable, respectée. Et néanmoins, le premier manager senior que j'avais recruté, c'est un directeur marketing qui avait 15 ans d'expérience. Il a fait 15 ans de Procter & Gamble. Il s'avère, c'est une énorme erreur. je pense que durant l'entretien, c'est là où c'est un peu difficile pendant un entretien, c'est que tu te poses les questions, la personne te répond. Et tu es start-upper, tu connais très peu de son domaine, forcément, il te donne des réponses qui te paraissent bien. Et par la suite, on n'a pas vraiment privilégié le côté fit culturel et fit d'équipe. Et je me rappelle, type est arrivé.
Il était tellement différent, en fait, que ça a dû être...
Mais le type est arrivé le premier jour, il a fait une réunion avec l'équipe. Son premier meeting, c'est process. Là, il dit, oh, ça va mal. On était encore 30 ou 40. Ouais, ouais. Le type a voulu faire du process pour son premier meeting. Je trouvais que ça a envoyé un message assez fort. Aussi, ça reflétait la culture des gens. Et quand je regarde maintenant avec du recul, la plupart des gens qui ont recruté des grosses boîtes, surtout tôt, personne n'a survécu.
C'est vrai.
Personne n'a survécu. Les gens qui ont... vraiment grandi avec la boîte, c'est souvent les gens qui viennent des startups, qui sont qui ont scalé, ou les gens qui ont fait des boîtes de croissance plutôt D'accord. que les grands groupes. Parce que fondamentalement, quand un profil a fait très longtemps une grande groupe, c'est rare. C'est pas toujours le cas, mais c'est assez rare qu'ils s'adaptent à une culture d'entreprise de start-up.
De start-up où il y a une croissance rapide, où tout change, où bon, on construit des process quand même en permanence, on les fait évoluer, quoi.
Donc l'erreur pour moi, c'est surtout de ne pas avoir passé suffisamment de temps pour évaluer le fit culturel d'une personne.
Bien sûr.
Et que maintenant, je privilégie pour tous les recrutements. Je pense que c'est beaucoup plus important que la compétence.
Et tu as maintenant un process de recrutement. Alors, désolé, j'ai utilisé le mot process.
Ouais.
Mais tu as un peu un process de recrutement, justement, où tu as mis en place chez Made un process de recrutement pour ne plus faire ces erreurs. Par exemple, je ne sais pas, faire des tests. Enfin, ce n'est pas facile, justement, surtout sur des rôles de management comme ça, parce que, comme tu le dis, c'est des profils où la personne est censée apporter de la valeur sur des compétences que tu n'as pas forcément toi-même ou qu'on n'a pas en interne.
Ouais.
Voilà, comment est-ce que tu abordais la chose pour ne plus commettre d'erreurs?
Oui. Alors, en fait, donc on a appris avec le temps. Au début, j'avais pas de méthode. Je me suis dit, je vais faire tous les entretiens. Comme ça, au moins, je suis sûr que la personne s'entend. Enfin, je m'entendrai avec la personne. Ouais. C'est surtout dans ce sens-là. Et quand tu passes de 5 ans, maintenant, on est 500. Donc, forcément, tu veux pas passer tous les entretiens. Il a fallu scaler ce process-là. Je me suis dit, comment je peux ne pas faire les entretiens, pas tous les entretiens en tout cas, et faire en sorte que les gens qu'on recrute s'adhèrent à ce qu'on fait. Donc, au début, c'était pas évident, mais après, j'ai compris. Donc, dans toutes les équipes, t'as une sorte de quelque chose qui sort du lot, tu vois. Mm-hmm. Il y a des choses qui vous différencient par rapport aux autres boîtes. Pour nous, par exemple, l'importance de regarder long terme. Et puisqu'on fait une marque, il y a aussi le côté, l'attention aux détails.
D'accord.
Tu vois, le fait de ne pas avoir peur de se s'aller à la main et faire les choses opérationnelles. Je pense que c'est un peu la transcription de moi-même, dans les rôles qu'on recrute. Donc, avec le temps, j'ai compris qu'il a fallu écrire tout ça sur un bout de papier et ensuite éduquer l'équipe qui recrute. C'est pas venu tout de suite, mais c'est venu progressivement avec le temps et articulé dans le temps. Et donc maintenant, en fait, c'est beaucoup plus facile. Une fois que tu as compris ça,
tu articules
maintenant. Les gens appellent ça les valeurs ou les principes. Tu l'écris et
tu les suis après, quoi.
Tu les suis, mais surtout, il faut marteler, il faut répéter. C'est le rôle du fondateur d'éduquer la boîte. En fait, le rôle du fondateur justement évolue avec le temps, parce qu'au début, tu peux manager. Après, il faut déléguer. Et au bout d'un moment, en fait, c'est surtout la culture qu'il faut que tu te bats assez fort pour maintenir, parce que sans ça, c'est toutes les stratégies que tu fais tombent à l'eau.
Ça marche trop bien. Alors, si ça te va, parce que le temps passe, j'aimerais terminer par quelques petites questions express, qui sont des petites questions rapides.
Allons-y.
Alors, la première, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était un des premiers d'ailleurs, Marcel Monsigny, quand j'étais stagiaire, il m'a dit, écoute, qui tente rien n'a rien. Donc j'ai suivi son conseil, j'ai démissionné chez lui. Il n'était pas très content, mais j'ai quand même suivi son conseil pour créer ma première boîte. Et c'est vrai que souvent, quand tu regardes beaucoup de choses, tu hésites. Et la réalité, c'est que si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais.
C'est clair, j'adore. Je trouve ça génial. Les erreurs que tu vois trop souvent chez les entrepreneurs?
Trop souvent? Un peu difficile à généraliser. Alors, ce que j'ai remarqué en fait avec mon retour en France, c'est il y a beaucoup de gens qui adorent faire les conférences, et ça je ne comprends pas. Et surtout quand tu es en début d'exercice, quand tu travailles encore sur le produit, je trouve que c'est une distraction. Pour moi, un entrepreneur, il a son surtout au début, son premier but, c'est de trouver un produit qui marche. Et il y a le produit, donc il faut se focaliser sur le produit. Et est-ce qu'il marche ou pas? Il faut parler à des clients et pas dans les conférences pour écouter. Parce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de bruit. Et c'est difficile de se concentrer déjà quand tu fais un projet. Et si tu passes du temps à faire des conférences...
C'est vrai, je suis assez d'accord avec ce conseil. Nous, chez Gémio, je pense qu'on a pendant des années jamais fait de conférence, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, on est assez peu présent en fait, en réalité, sur ce genre de choses. Les outils que tu utilises le plus souvent au quotidien, ça peut être chez Mail, chez MyFab maintenant, peu importe, ça peut être une app, un logiciel, un bon vieux carnet de notes. Est-ce que tu as des outils que tu utilises et qui, par exemple, améliorent ta productivité ou juste qui t'apporte quelque chose quoi, au quotidien?
J'aime bien écrire. Dans toutes les réunions, je viens avec un cahier, j'écris, je note ce que je dis et ce que mes managers me disent. Après, à la prochaine meeting, je le sors, je compare. Est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit? Je note aussi ce que j'ai appris le long de la journée, juste des petites choses. Soit ça peut être une citation, ça peut être une insight. Donc, j'aime bien apprendre et je trouve que le fait de noter sur un cahier, parfois sur un téléphone quand j'ai pas le cahier avec moi, c'est une bonne façon d'améliorer soi-même.
C'est clair. Et du coup, ça, tu relis tes notes assez régulièrement, j'imagine?
Alors, je le relis probablement pas assez régulièrement, mais je trouve que le fait de le noter, ça te permet déjà d'ancrer un peu dans la mémoire. Après, pour tout ce qui est management, c'est aussi utile parce que tu peux justement ressortir.
Ouais, bien sûr.
Mettons que tu fais un point hebdo avec un manager, un hiérarchique, tu dis on va faire ça, tu notes, et la semaine prochaine, tu peux vérifier si tu as fait ou pas. Donc ça c'est un. Après, je pense que j'essaye de lire les news de manière disciplinée parce que c'est aussi assez dangereux si tu passes que du temps à lire. Donc j'ai des créneaux de temps alloués et j'essaie de ne pas trop passer du temps dans la journée à lire les news parce que c'est une distraction.
Ouais.
Et je pense que c'est aussi par rapport à mon tempérament. Je sais qu'en fait, quand je suis en train de faire quelque chose, je me mets à lire d'autres choses, soit un mail, soit des news. Ça me distrait. Donc, les emails, par exemple, j'essaie de ne pas trop traiter les choses par mail, ou si je dois les traiter par mail, dans les créneaux de temps alloués. Donc, du coup, j'ai des plages
dédiées à ça.
Dédiées, et le reste, je peux vraiment focaliser à travailler. Donc, c'est une question de focus. Et j'ai surtout désactivé toutes les alertes sur mon téléphone parce que je trouve ça assez mauvais pour la productivité.
Clair. Super, merci beaucoup. Les livres qui t'ont le plus marqué? Alors, ça peut être des livres, ça peut être de la littérature, ça peut être... c'est pas facile, hein.
Ouais.
Ça peut être des livres business aussi.
Écoute, j'ai eu... moi, j'aime bien les biographies.
Ouais.
C'est pas que je m'identifie, mais je trouve que c'est assez agréable à lire. Et encore mieux, les biographies un peu romancées. Je trouve que ça donne l'information, mais
c'est
ça donne aussi le entertainment. Un des premiers livres que j'ai lu après le programme du bac français, c'était Napoléon de Max Gallo.
Ah, je l'ai pas lu.
C'est génial. Pour moi, en fait, qui arrivais de Chine, qui connaissait un peu l'histoire de la France par les bouquins scolaires, je suis vraiment j'ai appris beaucoup sur la France. Et deux, je trouve que c'est le côté de l'évolution du personnage est vraiment bien décrit. C'est une évolution vers le haut et vers le bas. C'est vraiment captivant. Et sinon, un deuxième livre que j'ai lu, que je recommande aussi, c'est aussi une biographie qui s'appelle Courir.
Ah oui.
Tu l'as lu?
Je ne l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé.
Oui.
J'ai très envie de la lire.
Oui, ouais. c'est un athlète. Donc, je ne vais pas tout décrire. C'est un tout petit livre, pas très long, qui parle d'un coureur de marathon pendant l'époque de la guerre. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est un coureur hors pair. Il ne courait pas comme les autres. Donc au début, forcément, il s'est pris beaucoup de moqueries. Et à la fin, je pense que quand tu es un entrepreneur, tu vois au début que tu es seul, tu es différent. Mais la persévérance, finalement, paye dans le long terme. Tu vois, c'était un peu ça, en fait, qui m'a beaucoup marqué. Et voilà.
Super. Bah écoute, je mettrai les notes en tout cas dans le podcast, dans le blog du podcast. Enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voulais me parler, une cause, un engagement, une demande, je sais pas. C'est le moment.
Un engagement, les quotes. Non, mais non, je pense qu'il faudrait qu'on s'assoie pour parler un peu de toi un jour. Parce on que tu, on a beaucoup parlé de moi, mais je pense que Pauline, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, tu vois, je me rappelle au début de Gemio, tu as aussi beaucoup évolué.
C'est sûr.
Et tu as beaucoup appris. J'aimerais bien.
Eh ben, on fera ça avec plaisir. On fera ça avec plaisir.
On déjeunera ensemble.
Merci beaucoup, Ning. Si jamais les auditeurs veulent, alors, soit te contacter, soit en tout cas juste te trouver, te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire sur le web?
Oui, ils peuvent m'écrire un mail à ning@made.com.
ning@made.com, je mettrai ça dans les notes aussi.
Ben,
merci beaucoup.
Merci Pauline.
À bientôt. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.